Bienvenue à vous et à vos oreilles frétillantes d'audace. Vous écoutez La Cohorte, le podcast qui rapproche les freelances. C'est Marine qui vous parle, l'entrepreneuse curieuse qui aime savoir comment vous débrouillez au quotidien. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, sachez que dans chaque épisode, je m'attaque à un sujet qui nous concerne tous, ou du moins un bon nombre d'entre nous. La plupart du temps, j'aborde cette question à travers des interviews de freelance qui ont trouvé des solutions malines et surtout reproductibles. Il m'arrive aussi de changer de format, car voyez-vous, j'aime bien vous surprendre. Mais rassurez-vous, l'objectif reste toujours le même. Vous donner des idées pour kiffer encore plus votre vie de freelance. Salut toutes et tous, j'espère que vous allez bien et surtout, j'espère que vos projets avancent et que chaque jour, vous pensez à célébrer vos petites victoires. De mon côté, j'ai du mal à croire qu'on est déjà en juillet. On dirait que le temps s'est accéléré bizarrement avec le confinement. Les vacances approchent, mais je ne suis pas encore dans le mood. J'ai surtout envie de bosser et de préparer la prochaine saison du podcast. Voilà, vous savez tout. Maintenant, passons, si vous le voulez bien, au programme de cet épisode. Nous allons de nouveau parler de collaboration entre freelances. C'est un thème qui m'est cher. Cela me passionne d'échanger avec des indépendants qui ont inventé ensemble de nouvelles façons de travailler. Et avec Julie et Rémi, j'ai été servie. Ces deux amoureux forment un couple d'entrepreneurs. Après avoir testé différentes choses chacun de leur côté, ils ont eu envie de travailler ensemble. Et quand je dis ensemble, ce n'est pas seulement côte à côte dans la même pièce, mais sur un projet commun. Ce projet s'appelle Kinoko. Il s'agit d'une offre d'accompagnement et de formation pour aider les entrepreneurs à s'épanouir autant dans leur vie pro que dans leur vie perso. Si vous voulez en savoir plus, Julie et Rémi partagent leur vision de l'entrepreneuriat dans un podcast que vous connaissez peut-être déjà, qui s'appelle « Être soi ». J'étais super contente de pouvoir les interviewer parce que vous allez l'entendre, ils innovent dans tous les domaines. Leur appart à Bordeaux, c'est un peu comme un centre de recherche et de développement pour l'entrepreneuriat et le freelancing. Au quotidien, Julie et Rémi s'inventent des métiers sur mesure, ils testent des méthodes de travail et d'organisation, ils cherchent aussi comment mieux communiquer entre eux et être efficaces dans un environnement qui n'est pas le plus propice à la concentration. Je n'en dis pas plus, place à l'interview. Comment vous vous répartissez le travail? Est-ce que vous avez des domaines réservés l'un et l'autre?
Oui, on se répartit le travail vraiment par rapport à nos centres d'intérêt, ce qui nous intéresse, ce qu'on aime. On ne se pose pas trop de questions au-delà de ça, donc c'est juste, Julie, si toi, tu es plus dans le délire marketing, à vouloir mettre en place des stratégies, ce qui est tout à fait le cas, je ne dis pas ça au hasard. Et moi, si c'est plus le côté créatif et aussi le côté, pour le coup, montage, notamment la partie post-production, etc., c'est moi qui fais beaucoup le montage, que ce soit pour nos clients ou nos propres podcasts. Mais du coup, ouais, on fait vraiment par rapport à nos centres d'intérêt, nos points forts. Et naturellement, du coup, nos tâches se divisent comme ça. On n'a pas beaucoup d'efforts à faire en plus.
Il n'y a pas de sujet corvée que personne ne veut faire et du coup, il faut y aller, vous imposer des choses.
Je pense que quelqu'un qui a une boîte ou un business, qu'on soit à deux ou tout seul, qui dit « j'aime tout ce que je fais », j'aurais du mal à le croire. Il y a toujours un truc qu'on n'aime pas. Perso, c'est s'occuper des papiers, même éditer les factures, ça me fait chier. C'est dire quand même, tout le côté administratif, c'est vraiment relou, c'est un truc que j'aime pas faire. Et puis même des fois, il y a une partie de mail que j'aime pas forcément faire. Et je pense que toi, Rémi, aussi, il y a des choses que t'aimes pas particulièrement.
En fait, ce qui est drôle, c'est que plus on avance dans notre business et plus justement les tâches qui nous embêtent, qui nous font chier, on a envie de les déléguer en fait. On essaie de trouver des stratégies et voir comment on peut gérer notre argent pour déléguer toutes ces tâches-là. Et moi, en l'occurrence, là, ce qui me vient à l'esprit, ce que j'aime pas, c'est un peu m'occuper de Pinterest, parce que Pinterest, c'est une source importante de trafic pour nous. Et ça demande de tout un opérationnel qui est pas intéressant du tout, parce que c'est beaucoup de tâches répétitives. Et ça, quand on aura l'opportunité de pouvoir le déléguer, on le fera assez rapidement.
Et l'administratif, c'est un peu tous les deux? Comment vous faites?
C'est plus moi, en fait, parce que comme j'ai créé l'entreprise, j'ai été à l'initiative de ça. Donc, en fait, toutes les démarches administratives, tout ce qui est comptabilité, en fait, je me suis formée sur le tas. Donc, j'ai toujours été l'interlocutrice privilégiée de toutes ces personnes-là. Et je reste quand même, on va dire, 95% des tâches administratives en voie de facture. Tout ça, tout ce qui est les papiers, etc., l'URSSAF, la CIPAF, c'est moi qui m'en occupe. Par contre, Rémi, là, de plus en plus, c'est important pour moi quand même qu'il puisse avoir la main dessus. Donc, c'est aussi lui qui, par exemple, va de temps en temps s'occuper de d'annoter nos comment dire les notes de frais, les choses comme ça dans notre outil comptable avec notre comptable, parce que c'est important qu'il sache aussi ce qui se passe. C'est important d'avoir le même niveau d'information quand même sur la plupart des choses. Donc ouais, 95% c'est moi et 5% c'est Rémi pour le moment.
Comment vous communiquez entre vous sur ce que vous faites ? Est-ce que vous interrompez au fil de l'eau quand les sujets apparaissent, ou est-ce que vous programmez des réunions ?
C'est un gros sujet depuis le début, je dirais. On a deux modes de fonctionnement, je veux dire naturellement, par rapport à nos personnalités, on est très différents à ce niveau-là. Julie est quelqu'un de très organisé et qui a besoin de se sentir vraiment dans un cadre pour se sentir en sécurité et bien. Et moi, au contraire, s'il y a trop d'organisation, si je me sens trop dans un cadre, j'ai tendance à me sentir contraint. Et étant donné que je suis quelqu'un de très créatif et qui a besoin d'apporter des solutions quand les problèmes arrivent, etc., dès que je suis au milieu d'un cadre trop rigide, j'ai l'impression de perdre cette liberté et ça nuit à ma créativité, je trouve. Donc, ça a souvent été sujet à débat houleux. C'est quelque chose qui revient régulièrement, je sais pas, tous les 3-6 mois à peu près. Ouais. Julie me dit « Bon, ce serait bien qu'on mette en place des systèmes d'organisation. » Et en fait, au final, la discussion, elle revient toujours, toujours dans le même sens. On essaie de trouver un entre-deux pour que tout le monde soit satisfait. Mais bon... Souvent, on arrive à le mettre en place quoi, 2 semaines peut-être, et puis on le perd en cours de route. Donc c'est vrai que majoritairement, bah, on a plutôt tendance à s'interrompre et à se dire « Bon alors, t'en es où? Tu fais quoi ?» etc. Mais dans l'idéal, on essaie de mettre des process en place. On a notamment Asana qu'on utilise en outil d'organisation, où on met les tâches qu'on a envie de faire dans la semaine, etc. Et comme ça, on a une visibilité sur ce que l'autre fait ou a besoin d'avoir, etc. Et ça, c'est quelque chose... On lutte un peu contre ce truc-là, et dans un autre côté, on sent qu'on en a besoin, donc on fait des efforts, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué à vraiment l'intégrer totalement.
Quand on préparait l'interview, vous m'aviez expliqué que vous n'aviez pas de journée de travail type. Du coup, est-ce que chacun, vous pourriez me décrire votre journée d'hier, par exemple ?
Hier, par exemple, il y avait tout ce qui était au niveau du podcast, parce que tous les lundis, je publie un épisode de podcast... C'est hyper important qu'il soit publié, donc il a fallu préparer ça. C'était vraiment quelque chose d'important. Il y avait aussi quelque chose de très important hier qu'il fallait que je fasse, c'était créer de A à Z un nouveau contrat d'accompagnement privé pour de nouveaux clients. Donc en fait, c'était compliqué parce que j'avais ça à faire, plus créer, faire la relecture, l'envoyer, envoyer aussi la page de paiement, envoyer des mails. Ça, c'était vraiment les trucs importants. En fait, je me note toutes ces tâches-là, je commence par les plus importantes et après, j'essaye de les faire. Alors, quand je dis j'essaye de les faire, on pourra l'évoquer ensuite parce qu'on a une configuration un peu particulière. Mais j'essaye de naviguer dans ma journée en essayant de faire en sorte de réaliser ces tâches par ordre de priorité. Ça ne veut pas dire que si je me suis dit le matin, il faut absolument qu'on ait programmé le podcast qui va être publié. La preuve, hier, il a été publié à 18h30 parce qu'en fait, même si elle était prioritaire, tout s'est étalé avec plein de micro-pauses, plein de choses et d'autres. Donc pour moi, il y avait ça à faire, et je crois qu'il y avait aussi un peu de travail de contenu pour notre entreprise, pour notre business. Ça, c'est ce que je devais faire. Et j'ai réussi à terminer, je crois que j'ai fini à 19h, et j'ai commencé à 9h30, 10h à vraiment travailler. Et c'est vrai qu'il y a eu, par exemple, mon contrat, je voulais le rédiger en 1 heure, j'ai mis 4 heures à le rédiger. Donc voilà, c'est pour ça aussi que je me mets moins de choses à faire. Ça, c'était ma journée d'hier. Je sais pas si c'est une très bonne description, mais c'était un peu un gloubi-boulga. C'est difficile à décrire, en fait, ce qui s'est passé.
Ta configuration particulière, on l'entend, c'est que vous travaillez avec Charlie, qui peut intervenir, en fait, et qui a 10 mois.
Ouais, elle va avoir bientôt 11 mois, là. On est fin avril, elle va sur ses 11 mois, mais elle a 10 mois, on va dire ça. Et oui, clairement, en fait... pour te donner un exemple, le matin, on se lève en même temps qu'elle. Elle fait des grasses matinées, donc on essaye de dormir parce que j'allaite encore. Donc la nuit, c'est fatigant pour moi encore par période. J'essaye de prendre du temps pour moi le matin. J'essaye de m'habiller aussi parce que bon, on est dans une période où on a tous envie de rester en pyjama, mais c'est important pour moi quand même de prendre soin de moi et de faire ça. Donc tous les temps pour moi, j'essaye de les passer le matin parce que sinon, ils passent à la trappe. Ensuite, je bosse. Et à partir du moment où elle est posée sur son tapis de jeu qui est derrière notre bureau, donc si vous suivez sur Instagram, vous verrez comment ça peut se passer parce qu'on partage ça régulièrement. Bien là, va s'enclencher un va-et-vient, mais je prends Charlie, c'est Rémi qui prend Charlie et je bosse sur mes tâches et c'est Rémi qui la prend. Il pourra peut-être décrire un peu ce qu'il faisait aussi. Mais en fait, il y a un balai en fait de où on va se passer Charlie au fur et à mesure. Avec un plus pour moi, parce que Rémi n'a pas les seins pour allaiter. Et comme je continue de l'allaiter et que c'est aussi quelque chose qui l'apaise et qui lui permet de se sentir bien, il y a des fois où moi, je dois m'interrompre obligatoirement parce qu'elle ne veut que moi. Donc voilà, c'est un balai comme ça jusqu'à la fin de la journée, avec une pause le midi pour qu'elle mange. Des fois, je travaille pendant que Rémi et Charlie mangent ensemble parce qu'il y a des choses à faire. En fait, on s'adapte continuellement. Toutes les heures, je pense. C'est tout le temps comme ça.
Et Rémi, du coup, elle ressemblait à quoi cette journée pour toi ?
Eh bien, beaucoup de montage par rapport au podcast. Et en fait, toutes les tâches qui englobaient cette action-là pour pouvoir délivrer le podcast dans les temps. Ça, c'était vraiment consacré sur ma matinée. Et puis après, j'avais tout un aspect contenu, c'est-à-dire sur Pinterest, sur Instagram à faire. Et il y a aussi, comme on était lundi, moi personnellement sur mon compte Instagram qui de plus en plus est là aussi pour servir notre marque, je propose un tirage d'oracle le lundi, donc j'avais aussi beaucoup de tâches à faire par rapport à cette routine-là du lundi, on va dire, et plus le fait que en fait tous les autres moments où Julie n'est pas en train d'allaiter Charlie, c'est moi qui ai Charlie avec moi globalement. C'est assez compliqué de bosser quand Charlie n'est pas avec Julie. Elle veut pas que je bosse. Mes tâches sont coupées toutes les 10 minutes à peu près. J'ai un rythme de travail très discontinu. Et j'ai quand même réussi à faire toute la stratégie Pinterest que l'on devait faire. Et puis ensuite, toutes les corrections que Julie m'a demandées par rapport au contrat, etc. Globalement, c'était la journée du lundi.
Une bonne journée, finalement, en termes de productivité.
Ouais. En fait, le truc que l'on fait, c'est bien quelque chose que je peux conseiller aux personnes qui sont hyper exigeantes, comme je peux l'être, c'est d'avoir un regard super bienveillant sur ces journées et de se dire, OK, j'ai quand même réussi à faire ça, en fait, et pas se dire, à la fin de la journée, j'ai pas fait ça. Vraiment se concentrer sur ce qui a été réalisé, même si c'était pas ce qui était noté, même si vous avez papillonné, et se dire finalement on en a fait quand même pas mal et c'est pas grave si on reporte.
Comment vous faites pour vous concentrer avec Charlie et vous deux, donc dans le même espace?
Comme maintenant, là, tu vois, je suis actuellement en train de te parler avec un bébé qui est en train de faire de la gymnastique. En fait, il faut composer et je pense que si on lâche pas, en fait, tout, constamment, si on est tout le temps hyper stressé, hyper agrippé sur les choses, on n'arrive à rien.
Oui, si on veut avancer, en fait, on se dit pas il faut que je sois dans un état de concentration optimale. Si, en fait, parce qu'on l'aura jamais cet état-là, donc on pourra jamais avancer. Et ça me fait penser à un post Instagram que j'ai partagé dimanche justement où je disais si t'es dans une tâche qui te demande de la concentration, eh bien, passe à une autre tâche, en fait. Si bébé est en train de faire trop de bruit ou quoi, ou que la personne à côté de toi, elle te dérange, passe à une tâche qui te demande moins de concentration. Et la tâche en question qui te demande beaucoup de concentration, tu la feras quand tu seras plus tranquille. Après, je pense qu'il y a une grosse part de personnalité là-dedans. Julie, elle a plus tendance à avoir besoin de concentration que moi. Elle est plus sensible au bruit, etc. Moi, j'arrive un peu à vivre avec. Mais il y a ce côté personnalité qui rentre en compte, je pense. Et du coup, ça arrive que Julie me dise « Non mais là, j'y arrive pas, elle pleure, il y a trop de bruit, machin. » Donc, je prends Charlie, je m'enferme dans une pièce. Et puis, une fois qu'elle a pu avancer sur sa tâche, on échange ou on passe à autre chose et on se débrouille comme ça.
Est-ce qu'il vous arrive de vous disputer ?
Non, faut pas croire que tout est rose et que c'est parce qu'on communique ou que on cherche toujours à faire en sorte d'améliorer les choses, qu'il n'y a pas de dispute et il n'y a pas d'engueulade. Hier, il y en a une. Vous faites bien, Rémi va vous la compter.
Je voulais justement dire que justement, la dernière engueulade, c'était hier. Du fait qu'on avait pas mal de choses à faire juste en une journée et qu'on était contraint par ce mode de travail discontinu, ça a été un peu frustrant pour Julie. Elle voyait que, comme on l'a dit tout à l'heure, 4 heures pour faire son contrat, elle voyait que ça avançait pas et que, en fait, dans sa tête, elle s'est dit, jamais j'aurais terminé mon contrat pour l'envoyer à mes nouveaux clients. Donc, la panique, etc. Et en fait, elle s'en est prise à moi, du coup. Elle m'a dit, non, mais moi, j'arrive pas à avancer sur ma tâche. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Et c'est là où on voit le souci du manque d'organisation qu'on pouvait avoir. On s'était pas assez informé sur les tâches que chacun faisait ce jour-là. Et moi, j'avais terminé le montage du podcast à ce moment-là. Julie, elle était en train de faire sa rédaction pour le contrat et elle voyait qu'il y avait tout l'aspect poster l'article, diffuser le podcast qu'elle devrait faire ensuite et elle voyait qu'elle n'allait pas tenir les deadlines. Et moi, je lui ai dit, bah, moi, je suis en train de faire de la rédaction pour mon compte Instagram. Et ça a dit, mais tu te fous de ma gueule, c'est pas prioritaire par rapport au contrat et par rapport au podcast. Ce que j'étais tout à fait d'accord et je lui ai dit, bah, ok, mais comment je peux t'aider? Pour le contrat, elle m'a dit, ben, tu peux pas m'aider. Donc, très bien. Et pour publier le podcast, en fait, on n'a pas mis encore de process pour que je puisse, faire l'aspect rédaction de l'article et tout ça à sa place. Il y a encore sa patte, etc., dans la rédaction de l'article pour publier l'épisode. Et elle voulait pas me lâcher cet aspect-là du podcast à ce moment-là. Et comme, là, c'était pas le moment de mettre des process en place, quoi. C'était pas le moment de réfléchir à quel process on peut mettre et tout. On était dans l'urgence, donc on s'est dit, bon, ben, en fait, tu peux pas m'aider. Donc, elle m'a engueulé pour rien. Moi, j'ai repris ma tâche que j'étais en train de faire. Ça a été difficile, surtout pour toi, parce qu'en fait, t'étais hyper frustré. Et moi, je me sentais coupable parce que je voulais t'aider, mais qu'on n'a pas réussi à trouver un moyen pour que ça t'allège un peu. Ça a duré quoi? Je sais pas. Peut-être une demi-heure, une heure, et puis après, on est passé à autre chose.
Est-ce qu'il y a des moments où vous devez vous interdire de parler boulot?
Pendant longtemps, j'ai cru qu'on allait devoir faire ça, parce que c'est aussi pour ça que je voulais, à la base, travailler seule et pas travailler avec quelqu'un, et encore moins avec... à l'époque, c'était mon futur mari, du coup, c'est devenu mon mari entre-temps, donc Rémi, parce que mes parents étaient donc aussi à leur compte, et ils passaient leur temps à parler boulot, et à vraiment ramener du boulot à la maison, et en fait, on sentait qu'il n'y avait jamais de coupure, et ça empiétait vraiment sur la vie, sur notre vie de familiale et personnelle, donc c'était vraiment relou. Et en fait, au final, comme on ne construit pas un business qui est censé nous peser, enfin, on en parle, on peut en parler n'importe quand, on ne va pas s'interdire de parler d'une idée, quand on a une idée... Rémi, quand il a un truc en plein milieu du repas qui lui vient par rapport à quelque chose qui concerne notre business, il va pas se dire « Ah non, j'en parle pas parce que c'est pas le moment ». Et on arrive aussi à mettre des limites et on sait aussi quand on a envie de faire autre chose que de parler business parce qu'on le fait en fait, on s'écoute. Donc en fait, il n'y a pas de cadre spécifique par rapport à ça.
Quels sont vos statuts respectifs?
En fait, c'est le même statut d'origine. Donc j'ai ouvert l'entreprise il y a bientôt 4 ans. C'est une EIRL, donc c'est une entreprise individuelle à responsabilité limitée. C'est en nom personnel, il faut savoir que ça c'est mon nom en fait. Si on tape mon nom avec EIRL derrière, c'est moi. Et Rémi, en fait, son statut c'est conjoint collaborateur. C'est-à-dire qu'on peut avoir un conjoint collaborateur quand on est une entreprise individuelle. C'est un statut que j'appelle souvent quand on en parle, c'est un peu le statut un peu bâtard, le truc entre les deux où il est quand même déclaré, mais en même temps... Il a pas de rémunération, il est là juste pour aider en fait, il est là. C'est l'esclave, on rigole en disant c'est l'esclave.
Ouais, c'est ça, c'est l'esclave déclaré.
C'est ça, l'esclave déclaré, ce qui peut l'être dans les faits, mais nous en fait, on a trouvé cette structure qui correspond à notre façon de vivre et à notre façon d'être aussi vu qu'on est mari et femme etc, ça correspond à ce qu'on voulait faire. Mais ça a vocation à évoluer. On a envie d'évoluer sous une autre forme juridique dans les prochaines semaines, mois, années, je ne sais pas, mais ça va évoluer.
Julie, tu le disais, c'est toi qui t'es lancée en premier. À la base, c'était ta boîte. Du coup, est-ce que c'est toi le patron?
Moi, je dis toujours qu'on est ensemble dans le business et qu'on a des rôles chacun et que chacun a son importance. Mais j'avoue que oui, je dirais que c'est souvent moi qui décide et... Voilà, la majorité des décisions, c'est moi qui les prends et qui vais dire on fait ça. Et toi,
tu demandes mon autorisation.
C'est pas faux. À chaque fois, j'ai besoin quand même. C'est quand même un bel échange. On est tout le temps en train de se soutenir. Et quand j'ai besoin d'un avis et de quelque chose, je vais voir Rémi.
On a vu qu'il vous arrivait de vous disputer au sujet du boulot. Comment vous faites pour que ça pollue pas votre vie de couple et de famille?
Le mot d'ordre, et de toute façon, on le fait assez naturellement, c'est que on communique, on se dit les choses. Et je pense que la dispute qu'on a eue, ça illustre bien, parce que Rémi disait que voilà, ça a duré une demi-heure, une heure. Sur le moment, en fait, on se dit bon, ça sert à rien d'en parler. On est dans l'émotion, et surtout, j'ai tendance à rejeter les choses très vite sur quelqu'un, et c'est souvent Rémi mon punching ball. Pour faire en sorte que ça nous pollue pas, il faut l'extérioriser. on sait qu'il vaut mieux prévenir que guérir, et ça sert à rien de garder les choses pour soi et de faire en sorte que ça s'accumule. Donc, on en parle et on désamorce tout en en parlant et en faisant en sorte justement de d'avoir un recul. Et en premier lieu, c'est dire « je suis désolée ».
Donc, jamais de rancœur qui persiste.
Personnellement, j'ai pas de, là, quand je réfléchis, j'ai pas de rancœur particulière. J'ai pas quelque chose qui me vient à l'esprit par rapport à ça.
Julie a pas beaucoup de mémoire. Donc, ça aide. Ça aide pas mal. Elle passe très vite à autre chose. C'est un point positif pour ça, du coup. Moi, je sais que les moments de colère qu'elle peut avoir contre moi, qui sont parfois violents, je sais qu'en fait, c'est une maladresse de communication. Au final, c'était pas une attaque personnelle envers moi, c'est juste qu'elle vivait un truc difficile en ce moment, une émotion trop forte comme de la frustration, etc. Et que ça s'est répercuté sur moi comme un dommage collatéral, quoi. Mais que j'étais pas la réelle cible, donc j'essaie de pas le prendre personnellement, mais c'est un exercice. Et du coup, ce qu'on essaye au maximum de faire, c'est d'en rire dès qu'on a désamorti le truc. Ça se dit, ça ?
Désamorcé.
Ouais, c'est mieux, désamorcé. Que ce soit au bout de quelques jours ou quoi, quand on en reparle, on essaie de le prendre avec rire. Et comme on rigole tout le temps, c'est pas très compliqué.
Une bonne engueulade égale une bonne poilade deux jours après.
Ouais, c'est un peu comme ça qu'on le prend. Et puis sinon, ça va aussi dans cette idée-là, c'est qu'on a tendance à un peu nettoyer notre linge sale avec tout le monde. On est assez ouvert et on n'a rien à cacher, on n'a pas honte de ce qu'on vit, des engueulades qu'on peut vivre notamment. Donc avec nos amis ou avec notre famille, ça nous arrive d'en parler. Et du coup, en parler avec d'autres personnes, ça ouvre un peu la perception de chacun, ça nous ouvre notre prisme de perception, et on se rend compte que nos positionnements n'étaient pas forcément si importants que ça.
Est-ce que vous avez besoin de travailler dans des endroits différents parfois ?
Alors moi, oui. Surtout depuis que je suis devenue maman. On l'a expliqué avant, et en fait, quand il y a du... Alors j'aime bien travailler avec du bruit. Par contre, travailler avec un bébé qui pleure ou qui est pas content et qui justement fait sa vie de bébé et d'être humain et du coup fait du bruit comme n'importe quelle personne, c'est difficile. Au bout d'un moment, j'ai l'impression de décrocher. Donc, j'ai besoin d'aller dans des cafés et particulièrement dans un coworking qui est juste à côté. Je vais travailler des demi-journées en fait. Maintenant, j'essaye de faire ça pour justement être plus efficace dans ce que je fais. Et par contre, Rémi, pour le coup, je sais que lui, il a aucun mal, en fait, à s'adapter. Et je crois que depuis qu'on bosse ensemble, les seules fois où on a bossé en extérieur, c'était à deux et jamais lui tout seul.
Est-ce que vous avez découvert des trucs l'un sur l'autre? Parce que ça faisait un moment que vous étiez ensemble avant de commencer à travailler ensemble. Est-ce qu'en commençant à travailler ensemble, vous avez découvert des trucs l'un sur l'autre?
Je crois que la seule chose perso que j'ai découvert, c'est que je pouvais travailler avec Rémi. Ça se passe très bien. Et heureusement, en fait, heureusement que ça se passe bien et qu'on a découvert qu'on était compatibles, ouais, businessment parlant, professionnellement parlant. Parce qu'au final, c'est comme ça qu'on peut vivre ce qu'on vit aujourd'hui personnellement. Je sais pas ce que toi t'as rajouté, Rémi. T'as découvert que j'étais chiante. Moi, je dis ça en rigolant à chaque fois.
Non, ce que j'ai découvert, c'est que... Mais en fait, je découvre régulièrement des trucs. En fait, je la vois s'épanouir dans son boulot comme moi, je peux m'épanouir dans notre boulot. Et c'est super intéressant parce qu'en fait, quand tu travailles pas avec la personne que tu aimes, tu vois pas ce qu'elle fait vraiment dans son travail. Tu sais pas comment elle s'épanouit. Alors qu'au final, beaucoup d'entre nous, c'est 35 heures semaine, tu vois, le boulot. En tant que freelance ou entrepreneur, ça peut être beaucoup plus parfois. Donc, quand tu travailles pas avec la personne que t'aimes, ça fait beaucoup d'heures que tu vois pas finalement. Et je trouve que l'opportunité qu'on a eue à travailler ensemble nous permet de nous voir dans cet aspect-là qu'on aurait peut-être jamais vu si on n'avait pas fait ça.
Le style de vie de votre famille dépend de la réussite financière de votre entreprise. Est-ce que c'est quelque chose qui vous motive ou est-ce que ça vous fait peur et est-ce que ça peut même vous bloquer?
Moi, ça m'a longtemps stressée. Il y a un truc qui s'est passé, c'est que un mois avant que j'apprenne que je sois enceinte, j'ai appris en fait que l'un de mes plus gros clients me disait que dans quelques mois c'était terminé. Donc en gros, j'allais perdre peut-être 60%, ouais, je sais pas, une très grosse partie de mon chiffre d'affaires. À l'époque, j'étais déconfite. J'étais là, oh là là, je sais pas ce que je vais faire. Et en même temps, j'ai été très réactive. Il m'a fallu une journée, et ça je l'explique souvent dans notre podcast, mais j'ai tendance à voir la fin du monde pendant 24 heures et après le lendemain je suis en mode guerrière quoi. C'est bon, qu'est-ce qu'on fait et tout, voilà, on va faire ça. Donc c'était un peu ça à l'époque aussi, mais ça demande des ajustements et ça demande aussi de se faire une réflexion sur notre sur nos propres envies en tant qu'individu, en tant que famille. Maintenant, je le vois plus comme un fardeau ou comme quelque chose qui est dur. Je le vois surtout comme une source de motivation.
Jusqu'à maintenant, ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Vous arrivez à manger, vous avez un toit.
Ah oui, oui, oui. Ça va faire 4 ans que donc j'ai ouvert l'entreprise et ça fait 3 ans qu'on travaille ensemble. On a quand même, en ce laps de temps, je crois que la première année que j'ai commencé à travailler, je gagnais, par rapport à mon ancien CDI, je gagnais 3 ou 4 fois plus en rémunération. On a acheté un appartement. On a quand même réussi à financer notre mariage quand même, chose que j'aurais jamais imaginée. On a fait beaucoup de choses en quelques années. Et je pense qu'on aurait pu se freiner beaucoup plus en étant salarié. Là, on a quand même cette liberté et on mange à notre faim. Il y a eu des périodes où c'était plus compliqué. Mais franchement, on arrive à bien rebondir.
Au-delà du fait qu'à deux, on arrive à abattre plus de boulot, est-ce qu'il y a d'autres avantages à bosser en couple ?
Le gros avantage que je vois, c'est qu'en travaillant en couple, effectivement, tu travailles avec une personne que tu connais super bien. On connaît nos forces, on connaît nos faiblesses, on sait comment on peut se compléter.
Et justement, sur ces complémentarités, tu peux m'en parler parce qu'on avait évoqué en préparant l'interview que toi, tu avais les idées et que Julie, elle intervenait derrière sur tout ce qui est projection, vision business.
C'est vraiment ça, en résumé. Moi, si je peux te donner un exemple concrètement, pendant plus d'un an, j'avais envie qu'on développe vraiment le côté podcast et qu'on fasse véritablement un studio de podcast et qu'on y aille à fond. Mais j'avais donc cette idée, j'avais le concept, mais en discutant avec Julie, j'ai pas réussi à l'emmener dans mon idée parce que j'avais dans mon délire, ouais, parce que j'avais pas tout l'aspect stratégique, marketing, etc. Et donc ça l'a pas parlé tout de suite. Et puis à force d'en parler, elle réussi à avoir une vision d'ensemble à plus long terme, etc. Et donc à force d'en parler et d'y réfléchir et tout ça, elle a pu développer la stratégie de se dire bon, on va faire un studio de podcast qui nous permettra de proposer de la post-production pour les personnes qui veulent lancer leur podcast mais qui veulent pas s'intéresser à la technique. Et ben nous, on va s'occuper de faire le montage, l'édition, etc. et la diffusion pour eux. Et ensuite, on a découlé la formation pour les personnes qui, elles, au contraire, veulent s'intéresser à la technique, etc., mais qui savent pas exactement par où aller, qui ont besoin d'être guidées, et donc nous, on leur propose cette formation-là. Et tout ça, c'est du coup grâce en partie à l'idée que j'ai initiée, et ensuite Julie qui a rebondi dessus et qui a balancé toute une stratégie. Même si ça a pris du temps, du coup, ensemble, on a pu construire ça.
Est-ce qu'il y a des aspects qui fonctionnent moins bien, des trucs que vous aimeriez changer dans votre façon de travailler ?
Ben, je pense que là, ce serait peut-être aussi plus lié à l'environnement. On a besoin de partir dans un autre environnement pour nous et pour notre vie familiale. Et en fait, l'idée, c'est d'avoir carrément Moi, mon idéal, ce serait d'avoir un bureau dans le jardin, en mode, pas forcément en mode cabanon, mais un truc vraiment en dehors de la maison, pour que vraiment il y ait une coupure et qu'on puisse trouver cet équilibre-là. Et puis on fait aussi de la vidéo, on fait aussi du podcast, donc c'est aussi important d'avoir un environnement où on est bien.
Quel est votre dernier kiff de freelance ou d'entrepreneur ? La dernière fois, vous vous êtes dit, c'est vraiment trop cool d'être indépendant. Une anecdote ?
Ah bah moi, c'est hier quand je me suis dit, purée, on est en plein corona. J'ai vendu un accompagnement à plusieurs milliers d'euros. Les gens, ils sont prêts à bosser avec nous. Ils sont là pour voir nos compétences et ils sont prêts à foncer. Et moi, je suis prête à les aider. Je trouve ça trop cool. Enfin, ça, c'était la reconnaissance du travail et l'amour de donner et de pouvoir échanger. Ça, c'était mon dernier kiff. Ouais, mon gros kiff. Ouais, c'est clair.
Rémi?
Moi, le kiff que j'ai vraiment, c'est que j'ai mes propres horaires, je fais vraiment ce que je veux, les tâches que je veux. Il n'y a pas quelqu'un qui me dit « fais ci, fais ça ». Mais du coup, ouais, le dernier kiff précisément, je sais pas trop.
Ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode, un peu plus long que d'habitude, vous a fait frétiller les oreilles et le ciboulot. Un énorme merci à Rémi, à Julie et à Charlie pour nous avoir fait découvrir leur quotidien. Leur témoignage le confirme, grâce à l'entrepreneuriat, on peut s'inventer un mode de vie qui ne ressemble qu'à nous. Je ne sais pas pour vous, mais moi je trouve ça grisant. En revanche, c'est très dur de créer quelque chose qui tienne dans la durée, Julie et Rémi ne s'en cachent pas. Il faut beaucoup d'humilité et de persévérance. Je note également que l'autodérision peut aider à débloquer des situations. Rire de ses galères après en avoir pleuré, cela paraît être un bon moyen pour prendre du recul. Vous voulez partager vos impressions sur cette interview ou me suggérer des thèmes pour les prochains épisodes ? Génial ! Vous pouvez m'envoyer un message ou laisser un commentaire sur les comptes Instagram, Facebook ou Twitter du podcast. Je tiens aussi une adresse mail à votre disposition, c'est hello@lacohorte.fr. Une petite requête pour conclure. Si vous aimez le podcast, parlez-en à tous vos potes freelance. Et avant de vous remettre au boulot, laissez une note ou un avis sur l'application qui vous sert à écouter les épisodes, en particulier s'il s'agit d'Apple Podcasts. C'est grâce à votre soutien que la cohorte grandit. On se retrouve dans 15 jours pour de nouvelles aventures et d'ici là, surtout, restez libres.